La technique, c'est la voiture que l'on conduit, le téléphone qui nous suit partout, ou la Wi-Fi dans nos salons. Mais c'est aussi et surtout le stylo avec lequel on écrit sa liste de courses, le couteau qui coupe nos carottes, la manière dont on parle, marche et pense. La technique est partout, invisible et assimilée, et dans les minutes qui suivent, nous allons la chercher là où elle se cache, tout près de nous. Elle est à la fois savoir-faire et outil, un ensemble de procédés informels incorporés dans des objets créés par l'être humain. Partez avec nous à l'aventure dans un monde que l'on connaît trop bien et que l'on a donc arrêté de voir. Et on vous prévient, ça va être technique.
Captation carbone, lunettes connectées ou encore robots IA, nos ingénieurs semblent redoubler de créativité pour répondre aux problèmes les plus cruciaux de notre planète et parfois aussi aux problèmes un petit peu moins vitaux. Alors, l'innovation signifie-t-elle réellement la création d'un objet miracle, d'un remède magique ou d'un dénoyauteur d'avocats ? C'est sur quoi un groupe d'étudiants et étudiantes a travaillé à l'Université de technologie de Compiègne. On accueille aujourd'hui ici Louise et Iris pour nous parler de technosolutionnisme.
Bonjour.
Bonjour
à toutes les deux.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement qu'est-ce que le technosolutionnisme, juste pour qu'on ait des bases pour entamer cette petite discussion ?
Alors rapidement, je ne sais pas, je vais essayer. Donc pour nous, le technosolutionnisme, c'est à la fois une posture, un réflexe et une idéologie. Pour commencer, c'est important de rappeler qu'on vit dans un monde où le progrès technique, il est sacralisé et où le capitalisme technologique canalise les ressources. Donc dans ce contexte-là, la vision dominante considère tous les défis que l'on rencontre comme des pannes techniques, qu'elles soient d'ordre technique ou non. Et qu'il suffirait donc d'innover pour résoudre ces défis, qu'ils soient environnementaux, économiques, sociaux. Le technosolutionnisme, il prend appui sur cette vision dominante. Et donc il est tout à fait logique que la réponse à une limite, ce soit la technosolution. La technosolution, c'est une réaction binaire. On a un problème, on lève une technologie, qui vise certes à une amélioration de la situation, mais via une approche symptomatique. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que ça fait faussement disparaître les problèmes, puisque la technosolution tend à reproduire indéfiniment les causes des problèmes qu'elle prétend résoudre. Les causes structurelles persistent, car elles ne sont pas traitées, et elles reviennent un peu comme des fantômes, si on veut. Des fantômes pourquoi ? Parce que c'est masqué en fait par un discours d'un futur meilleur. Les technosolutions, c'est énormément de promesses. Le technosolutionnisme, pour faire la distinction, c'est cette boucle-là. La technosolution, c'est la solution technique qui fait tourner la boucle. C'est un peu abstrait, Iris va vous en dire davantage.
Effectivement, nous on aime bien avoir du coup une petite phrase, en fait, un petit schéma qui reboucle sur lui-même pour définir plus simplement le technosolutionnisme. En gros, ce qu'on dit, c'est que face à une limite qui est issue de notre monde moderne, des crises qu'on traverse, etc., il y a une entité publique ou privée qui va proposer une solution, et donc une technosolution, pour en fait éviter de changer toutes les choses qu'on n'a pas envie de changer, nos modes de vie, de consommation, tout ce qu'on veut voir rester de la même manière. Et ça va provoquer en fait des conséquences qu'on peut aussi appeler des externalités négatives. Et tout ça, cette technosolution-là, elle va venir en fait du coup alimenter la limite même qu'elle cherchait à éradiquer de base. Et donc ça va reboucler, on va avoir une nouvelle entité qui propose une nouvelle solution, qui va encore éviter de changer nos modes de vie. Mais en fait, on est bien conscient aujourd'hui que sans modification structurelle de la manière de laquelle on vit et on habite le monde aujourd'hui, c'est pas possible en fait de faire face aux problèmes auxquels on est.
Donc, si j'entends bien, en fait, une technosolution, c'est une sorte de solution, mais j'ai pas l'impression que vous la qualifiez totalement de solution. Est-ce que je me trompe ?
Effectivement, je pense qu'on est dans notre groupe assez critique du technosolutionnisme. De fait, parce que, enfin, comme on vient de le dire, l'idée, c'est vraiment que ça répond à un problème, à un instant T donné, qu'on voit, même si c'est une limite planétaire, mais c'est un problème donné, sans du tout aller se poser la question derrière de mais pourquoi il advient ce problème ? C'est quoi les causes structurelles derrière ? Comment est-ce qu'on va faire en sorte de supprimer en fait ces causes-là. Et donc la technosolution ne se pose pas cette question-là. Elle vient dire « Ah mais moi j'arrive, hop là, on me pose, baguette magique, et c'est bon, j'ai plus de problème. » Mais évidemment, le problème il disparaît pas, et les causes structurelles qu'il y a derrière non plus. Et c'est ça qu'on reproche.
En fait, une solution qui vient pallier aux symptômes du problème, mais pas forcément au problème en soi.
Ouais, exactement.
C'est ça. C'est pour ça qu'on parlait d'approche symptomatique. C'est vraiment le mot-clé, je pense, pour comprendre ce qu'est une technosolution.
Et qu'est-ce qui fait qu'on ait cette posture ?
Alors ça, justement, on s'est aussi intéressé à la question. En fait, qu'est-ce qui explique qu'on ait un réflexe technosolutionniste ? Nous, ce qu'on en ressort, c'est que c'est un cercle vicieux qui s'entretient parce que, d'une part, on est aujourd'hui dans un système de croyances qui légitime en fait l'usage généralisé de la technologie pour pallier à nos problèmes, avec un certain techno-optimisme. Donc, on va croire que le progrès technologique peut conduire à une amélioration significative de nos conditions de vie et répondre à tous les défis auxquels on va se trouver confrontés. On a par exemple le mythe de la neutralité de la technique qui vient nous dire que voilà, pareil, la technique pourrait répondre à nos problèmes, qu'elle est dépolitisée, que c'est simplement un outil et que dépendant de la manière de laquelle on l'utilise, on va pouvoir en faire une solution. Et de manière générale, en fait, on est dans un imaginaire vraiment de la salvation avec la technologie qui serait un peu l'horizon du salut, quoi. Et comme on est dans ce système-là, avec cet imaginaire-là, et le tout engoncé dans des inerties techniques, avec des structures institutionnelles, socio-politico-économiques, on va rester justement dans ce système-là, avec nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation. Et donc dans ce cadre... d'une part, c'est là qu'apparaissent les limites systémiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, toutes les crises auxquelles on est confronté actuellement, qui sont liées donc à nos modes de vie. Et comme on est avec ces croyances-là en la technologie, en le progrès et nos inerties structurelles, c'est normal qu'en fait que la solution qu'on choisisse, ce soit la technosolution. L'avantage de la technosolution, en plus, c'est qu'elle nous réconforte, parce qu'elle nous fait vraiment la promesse, que les problèmes ils peuvent être résolus sans changer nos modes de vie. Uniquement en continuant d'avoir foi en la technique. Et voilà, ça s'auto-entretient encore une fois. On se dit, OK, technosolution, c'est bon, plus de problème. Du coup, on peut continuer d'investir dans la technique, dans la technologie, da-da-da-da, et sans jamais, en fait, remettre en question nos choix technologiques.
Face au réchauffement climatique, on parle beaucoup de solutions techniques. Est-ce que le technosolutionnisme marque particulièrement aujourd'hui ?
Nous, on considère que oui, effectivement... aujourd'hui, on se retrouve vraiment face à une abondance en fait, de technosolutions, que ce soit dans les innovations on va dire, qui sont produites, que ce soit dans les médias, dans la manière par laquelle on évoque en fait, ces pseudo-solutions. Et il y en a qui sont voilà, très, très emblématiques. Le captage du CO2, par exemple, on en a beaucoup entendu parler, qui est censé justement faire face à la crise écologique que nous traversons, notamment au fait qu'il y ait beaucoup d'émissions de carbone aujourd'hui qui réchauffent l'atmosphère, etc. Donc oui, c'est un discours qui est extrêmement prégnant dans les médias aujourd'hui.
Ce qui est intéressant de constater, c'est que ça s'inscrit parfaitement dans le contexte actuel d'urgence des crises. C'est-à-dire qu'il faut réagir le plus vite possible, le plus simplement possible, face à des problèmes qui sont complexes et qu'on n'a pas réellement envie de regarder en face. C'est là qu'interviennent les technosolutions et ça, c'est vraiment particulier au XXIe siècle et aux crises du XXIe siècle. Mais il y a des exemples à moindre échelle, plus insidieux que par exemple le captage du CO2. Je vais essayer de développer un exemple maintenant pour essayer d'illustrer un peu tout ce que on a vu. C'est l'exemple du Nutri-Score. Vous l'avez sans doute déjà croisé. Le Nutri-Score, c'est cette petite étiquette que l'on retrouve sur les packagings des produits dans les supermarchés. Donc c'est un logo en 5 couleurs, du vert au rouge et en 5 lettres de A à E. Pas besoin de mode d'emploi, on comprend très vite de quoi il s'agit. A, vert, c'est un bon produit. E, rouge, c'est un mauvais produit. Pour régler le problème donc, potentiellement de maladies liées à la malnutrition, le Nutri-Score se propose de résumer la qualité nutritionnelle d'un produit en un seul coup d'œil dans les rayons et de laisser directement le choix au consommateur de s'intoxiquer ou non. C'est ce point particulièrement qui est intéressant de relever. Donc dans une société où tout doit aller très vite, le choix d'un produit dans un supermarché se fait de la manière la plus optimisée possible selon différents critères. Le prix, le goût, l'impact écologique et également la qualité nutritionnelle. Pour ce critère, le Nutri-Score il se démarque par sa simplicité et son efficacité pour une prise de décision rapide. À l'opposé, le tableau nutritionnel est lui un peu illisible et trop lent pour nous. Donc finalement, cette étiquette, elle s'adapte parfaitement à notre manière de consommer. Toujours plus, toujours plus rapide. Mais là est tout le problème. Cet outil ne parvient pas à améliorer notre consommation. Elle s'y adapte seulement. et elle donne l'illusion de pouvoir améliorer notre manière de consommer. Car en réalité, un outil comme le Nutri-Score, il se heurte à un bon nombre de limites. Premièrement, plutôt que d'arrêter de produire et de proposer des produits ultra transformés, on externalise la responsabilité d'une alimentation saine sur les individus, alors que concrètement, 70% de l'offre dans les supermarchés, c'est une offre qui est déjà ultra transformée. Donc forcément, ça incite à acheter ultra transformé. On peut ajouter à cela le fait qu'en responsabilisant l'individu, le Nutri-Score, il ne prend pas en compte l'aspect social. Il demande de modifier son comportement. Et une modification comportementale, ça demande plus ou moins de temps, d'informations, de moyens et de critères autres que la conformité nutritionnelle. Donc cela laisse structurellement de côté certaines personnes. Il y a également des limites qui sont propres à l'outil lui-même, à la technique lui-même. En fait, le Nutri-Score, à la base, c'est un algorithme. Hein. Il est basé sur des calculs avec des soustractions en fonction des qualités positives ou négatives nutritionnelles. Donc c'est des critères qui sont déjà de base relativement arbitraires et on ne les connaît pas, mais ils se vantent d'être neutres puisque c'est un algorithme, puisque c'est des calculs. Et voilà, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a vraiment un... On aime hein, tout ce qui est chiffres, tout ce qui est rationnel, tout ce qui est scientifique. On considère que c'est comme c'est rationnel, c'est forcément bien. Mais en réalité, c'est quand même des critères qui sont arbitraires et il y a une limite à cet algorithme. Puisqu'en rendant lisible uniquement la finalité, avec l'étiquette, le vert, le rouge, voilà, il fait abstraction de tout le comment et du pourquoi. Et ça, on peut notamment le voir avec toutes les reclassifications qu'il y a eu du Nutri-Score depuis le moment où il a été mis en place en France et dans les autres pays. Il y a des produits qui sont passés de Nutri-Score C ou D à Nutri-Score A et inversement, il y a des lobbies qui se battent pour faire passer un critère plutôt que d'autres. Notamment, j'ai vu les lobbies des produits laitiers, mais c'est le cas de plein d'autres industriels. Et donc, le fait même que ce soit un algorithme, donc vraiment l'outil en lui-même est une limite en soi à cette solution.
Et ça avantage qui donc d'avoir ces solutions ? Pourquoi est-ce qu'on les met en place ?
Justement, ce genre de solution, c'est censé aider la population. C'est un problème de santé publique. Sauf que quand on regarde de plus près, ceux que ça avantage réellement, c'est pas le grand public, mais bien les industriels qui vont utiliser et faire la promotion de cet outil. Ça va donner l'illusion qu'ils font le nécessaire pour qu'on mange sainement, mais en réalité, il n'y a pas de contraintes sur leur production. Ils peuvent continuer de produire et de vendre ultra transformés. Et c'est vraiment sur l'individu qui est reporté toute la responsabilité. Et les industriels, les lobbies, ils peuvent continuer en toute impunité de produire. Donc finalement, l'intérêt là, il est plus du côté des industriels où il y a une déculpabilisation finalement, plutôt que du côté de l'intérêt de la santé publique. Et ça, c'est un exemple vraiment frappant du réductionnisme, de la réduction d'un problème qui est vraiment social, politique. Et on le réduit à un algorithme, à des lettres et des couleurs.
Et comment est-ce qu'on sait si quelque chose est technosolutionniste ?
Alors justement, dans notre projet, on a essayé d'élaborer un petit décodeur en fait, des technosolutions. Et l'idée, ça va être d'aller reprendre les éléments qu'on a dit tout à l'heure de la définition, donc la limite, les externalités négatives, etc. Et d'aller vraiment les étudier de plus près. Donc par exemple, on se demande, ok, telle solution, elle répond à quelle limite ? Elle est développée par quels acteurs ? Elle est présentée comment ? Auprès de quel public ? Avec quel discours, etc. On s'interroge sur ce que cette solution, entre guillemets, du coup, permet de préserver dans nos modes de vie, dans nos modes de consommation, et également le paradigme dans lequel elle s'inscrit, ce qui est probablement la chose la plus importante. Ça permet aussi de revenir au niveau global.
Est-ce que vous pourriez définir rapidement ce que c'est qu'un paradigme ?
Ouais. Nous, ce qu'on entend par paradigme, c'est l'ensemble du contexte, on va dire, dans lequel on se situe actuellement, dans lequel la technosolution évolue. Donc ça peut être des facteurs sociaux, économiques, environnementaux, enfin tout ce qui constitue le monde dans lequel on vit.
Okay.
Et donc l'idée, c'est une fois qu'on a défini ça, d'essayer quand même de terminer par essayer d'identifier des alternatives en fait à ces technosolutions. La complexité à laquelle on se heurte, évidemment, c'est que du coup, ça va être à plus ou moins grande échelle. C'est-à-dire que sur l'exemple du Nutri-Score, On pourrait dire que ça pourrait être consommé local, hors des supermarchés, etc. Mais ça pourrait aller en fait, jusqu'à remettre en cause tout notre système de production agroalimentaire et faire des grandes campagnes de sensibilisation à nos manières de produire de la nourriture, à nos manières de s'alimenter, etc. Donc effectivement, on a cette question-là de l'échelle. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de réfléchir justement à des alternatives et surtout à quelles sont du coup les inerties qui empêchent ces alternatives d'advenir et les leviers sur lesquels on peut faire pression.
Et donc, pour pouvoir essayer d'avoir ces alternatives, il faut les repérer, ces technosolutions. Quel avantage est-ce qu'on peut avoir à les repérer ?
Eh bien, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut qu'on distingue différents publics pour qui les avantages peuvent être différents. D'abord, comme nous, en tant qu'étudiants ingénieurs, nous avons tout intérêt à savoir reconnaître ce réflexe, au moins, et savoir s'en séparer. D'abord, quand on est étudiant, pour avoir un regard critique, que ce soit sur les enseignements qu'on peut nous apporter en école. Mais ce qui va être surtout important, c'est lors de nos recherches de stage, pour savoir si une entreprise ou une start-up va potentiellement adopter une posture technosolutionniste. Au moins le savoir, est-ce que être conscient d'en faire partie, ou au contraire, si on veut s'en séparer, que l'on puisse s'en séparer. Donc il y a vraiment un enjeu à savoir le reconnaître pour pas potentiellement participer à quelque chose auquel on n'aurait pas envie de participer. Et de la même manière, en tant que futur ingénieur actif et acteur de la société, je pense qu'il en va de notre responsabilité à toutes et à tous d'agir à minima en connaissance de cause. C'est pourquoi je pense qu'il est important de pouvoir prendre conscience de ce champ du monde qui est vraiment là, qui est vraiment présent, technosolutionniste. Et pour autant, je dis tout ça, mais ce n'est vraiment pas facile, pardon, de s'en séparer, tant il est omniprésent, même quand on en a conscience.
Est-ce qu'il faudrait vouloir se séparer de toutes les technosolutions ?
Ça, c'est une question qu'il faut, je pense, traiter au cas par cas. Si la question, c'est faut-il abolir toutes les technosolutions ? Si je devais donner une réponse générale, les technosolutions participent au maintien d'un statu quo. Elles peuvent être des réponses qui permettent de temporiser malgré tout, même s'il peut y avoir, donc Iris l'a dit, des externalités négatives. Le réel danger pour nous, c'est de les considérer comme des véritables solutions et de s'appuyer totalement et uniquement surtout sur celles-ci. Par exemple, si on reprend le Nutri-Score, il n'est pas intrinsèquement mauvais, il est juste largement insuffisant. Et il devient problématique si on le présente comme le levier majeur de santé publique qui va répondre aux problèmes de maladies chroniques, etc. Si on veut, c'est comme un thermomètre. On utilisait l'allégorie médicale de l'approche symptomatique, c'est la même chose. La technosolution montre qu'on a de la fièvre, mais on ne la soigne pas. Un outil comme le Nutri-Score, en mettant l'accent uniquement sur la santé humaine, de fait également abstraction des impacts écologiques et sociaux, par exemple, des problèmes qu'il faut penser ensemble et non séparément. Chose que les technosolutions, généralement, ne font pas. Enfin, pas généralement, par définition, ne font pas. Nous prenons ainsi le parti de dire qu'il vaudrait mieux investir dès le début dans des moyens de changer réellement les choses. Mais comme disait Iris tout à l'heure, ça va vraiment être de penser à des alternatives plutôt que d'abolir totalement, en tout et pour tout, les technosolutions.
Dans le travail, vous parlez quand même parfois négativement de ces technosolutions. Est-ce qu'elles sont dangereuses ?
Nous, on trouve qu'elles sont dangereuses plutôt au sens où, voilà, d'une part, elles permettent d'entretenir un système, mais surtout, en fait, c'est vraiment l'arbre qui masque la forêt. C'est-à-dire qu'on va investir dans les technosolutions, on va leur accorder des fonds, de l'espace médiatique, de la valorisation, etc. Et ça fait, en fait, qu'elles ont beaucoup, beaucoup d'espace public, qu'on entend beaucoup parler de différentes technosolutions. Et du coup, ça empêche, en fait, que cette réflexion-là sur l'aspect systémique, structurel, du problème soit abordé au moins au même titre. Nous, c'est pas forcément que toute technosolution est un mal en soi, comme disait Louise, on n'est pas pour l'abolition de toute technosolution, mais c'est plus qu'il nous semble que ce réflexe, il est délétère à terme, parce qu'en fait, c'est pas ce qui va nous permettre de résoudre les crises que nous traversons, et qu'actuellement, ça capte les ressources, ça capte l'espace public, et ça nous empêche de nous concentrer sur des réelles alternatives qui passent pour moi par une modification de l'imaginaire.
Un autre avantage, donc, à essayer de les repérer, à essayer de les déceler pour les démanteler à la fin.
C'est ça.
Super. Et est-ce que vous, en tant qu'étudiante ingénieure, vous avez adapté votre démarche pour essayer de l'éviter ?
Moi, je sais qu'en tant qu'étudiante ingénieure, ça va vraiment jouer, je pense, dans, au niveau de la recherche de stage et puis plus tard de la recherche d'emploi, au sens où c'est vraiment important pour moi de trouver un lieu de travail dans lequel le but n'est pas de produire une technosolution et plutôt justement d'arriver à questionner ce récit-là et d'aller vers des alternatives qui sont plus souhaitables.
Est-ce que vous, en tant qu'étudiante ingénieure, vous avez identifié dans vos démarches des réflexes qui étaient parfois un peu technosolutionnistes? Et est-ce que vous avez adapté donc votre démarche d'ingénieur?
Je sais que ça, dans certaines UV, on nous demande parfois de...
UV, je le rappelle, c'est unité de valeur, les matières à l'ITC. Ouais.
Effectivement. Voilà, on nous demande parfois d'imaginer des choses qu'on peut considérer comme des technosolutions, y compris dans des UV, on va pas faire de la conception ou autre, mais par exemple du design ou même des UV d'anglais ou des choses comme ça. Et c'est intéressant de voir déjà que les technosolutions, elles peuvent être prégnantes pas seulement dans les matières d'ingénierie pure, on va dire, mais également dans certaines autres UV du coup, qu'on est amené à faire. Effectivement, voilà, avec le projet qu'on vient de faire, on va forcément se questionner davantage sur les technosolutions. Et il me semble que c'est une approche aussi, c'est quelque chose qu'on va chercher à éviter lorsqu'on va chercher des stages, en fait, et des emplois. Il me semble que c'est souhaitable, au moins, je parle au moins pour les membres du groupe, mais dans l'idée pour les gens qui écoutent ce podcast aussi, on l'espère, de chercher en fait à aller vers des domaines qui vont pas chercher purement et simplement à répondre aux limites auxquelles on fait face actuellement par des solutions techniques. Et ça peut être vraiment dans tous les domaines. Par exemple, moi je suis ingénie urbain et que quand je chercherai mon stage de fin d'études, je vais essayer idéalement d'aller vers du technosolutionnisme à fond.
Le technosolutionnisme, pour prendre une petite analogie, c'est comme mettre un pansement à côté de la plaie.
Même pas dessus, quoi.
C'est cacher les symptômes, mettre un petit peu la poussière sur le tapis. J'exagère un petit peu, parfois j'exagère un petit peu moins. Je sais pas ce que vous en pensez.
Non, je pense que c'est très bien ce que tu dis et... On pourrait même dire potentiellement que c'est mettre le pansement sur la plaie, mais juste sans se questionner de pourquoi elle est là, la plaie.
Qui a fait cette plaie?
Exactement, c'est vraiment ce truc de... Effectivement, on prend juste un problème auquel on fait face dans notre monde actuel, et on se dit « Ok, let's go, moi j'ai la solution miracle », mais à aucun moment on se questionne en fait sur « Mais pourquoi elle advient, cette plaie? Pourquoi on est face à ce problème ?» Si je reprends voilà, un exemple très, très emblématique, la captation carbone, l'idée c'est de dire « Ok, il y a trop de carbone, pas de problème, on va capter du carbone avec des méthodes extrêmement technologiques ». Mais pour moi, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'on produit une quantité de carbone absolument ahurissante. Et en fait, juste dire « Non, mais pas de souci, continuez à faire ce que vous faites, à produire comme vous produisez, à consommer comme vous consommez ». Et nous, derrière, on capte le carbone, donc il posera plus de problèmes. C'est vraiment ça le technosolutionnisme.
Ouais, et c'est marrant parce que tu parles de captation carbone, mais encore, c'est pas pour moi le plus inquiétant. Moi, c'est ce à quoi je pensais quand je pense à technosolutionnisme, c'est justement la captation carbone, la géo-ingénierie qu'on a aujourd'hui où les ingénieurs veulent contrôler le climat. Mais Louise, tu as parlé par exemple du Nutri-Score. Pour moi, ça m'est pas venu à la tête quand on parle de technosolutionnisme, mais c'est vrai que ça a des répercussions énormes. Ça nous avantage pas, et pire, ça avantage des gens qui veulent pas forcément notre bien. Je trouve que c'est super bien votre travail pour essayer de redéfinir le technosolutionnisme, de dire, c'est pas que dans le gros le technosolutionnisme, il y en a des petits qui eux aussi contribuent à faire perdurer tous ces systèmes qu'on a qui sont parfois néfastes. Un grand bravo pour votre travail.
Merci.
Merci.
Et c'est ça, en fait, ce qui est intéressant et ce dont on s'est rendu compte aussi avec ce projet, ça peut se retrouver dans vraiment tous les domaines à une échelle plus ou moins grande. Tout est souvent lié et en fait, les racines des technosolutions, c'est qu'elles vont venir séparer un peu les causes du problème et venir traiter qu'un seul problème, alors que je reprends le terme de systémique, mais c'est des problèmes qui sont systémiques, ils sont à la fois sociaux, politiques, économiques, et la technosolution va venir traiter qu'une seule cause en particulier. Et donc, ça, c'est le cas pour la géo-ingénierie. Mais pour d'autres domaines, comme bah, par exemple la santé publique avec le Nutri-Score, encore une fois, là, ça vient traiter qu'une seule cause, la malnutrition. Alors qu'en fait, c'est encore une fois, faut revenir au paradigme agroalimentaire, faut revenir aux inégalités sociales.
C'est une seule composante du système, en fait.
C'est ça. Et la technosolution ne va traiter qu'une seule composante du système, alors qu'il faut vraiment essayer de prendre les problèmes avec une vision d'ensemble. Donc ça, c'est vrai à différentes échelles, et pas que pour la géo-ingénierie et pour la crise climatique.
En fait, vous l'expliquez au cours de votre travail, la technosolution... Elle vient chercher une seule composante dans le système pour essayer de résoudre ça, alors que on n'arrive pas forcément à résoudre le problème avec une seule composante. Et donc, en faisant abstraction de tout le reste du système, on le protège aussi.
C'est ça.
On fait semblant que les problèmes dans toutes les autres composantes n'existent pas. Et c'est ça qui
on protège le système. Et c'est comme ça qu'il y a un maintien du statu quo. Et ce statu quo-là, il ne faut pas se voiler la face, il avantage une certaine catégorie de la population. Il y a des gens, il y a un groupe de personnes qui ont vraiment des intérêts à ce que ce système perdure, hein, le système capitaliste, etc., notamment, mais pas que. Et c'est vraiment une petite catégorie de personnes qui va venir profiter de ce système-là et qui va notamment agir. Hein. Nous, dans notre appareil critique qu'on a appelé décodeur à technosolutions, il y a une partie où on s'intéresse au financement, aux acteurs qui financent les technosolutions. Parce que grâce à ça, on se rend compte, on peut se rendre compte, pas tout le temps, mais on peut se rendre compte qu'il y a vraiment des gens qui vont investir dans les technosolutions parce que ça leur profite. En fait, le système actuel, il profite à ces personnes. Et souvent, malheureusement, ce n'est pas ça qui résout les problèmes dans leur globalité.
J'ai envie de poser une question annexe. Alors, est-ce que ça existe, les choses qui ne sont pas technosolutionnistes ?
Alors, ça existe, effectivement, les choses qui ne sont pas technosolutionnistes, et heureusement d'ailleurs. Sinon, voilà. même si c'est un réflexe, on va dire, majoritaire, le technosolutionnisme aujourd'hui, pour faire face à des crises, il y a aussi beaucoup, beaucoup quand même d'initiatives, d'alternatives, de personnes, de groupes, d'ONG, de plein d'acteurs, en fait, qui se positionnent. Qui se positionne pas forcément face au technosolutionnisme, mais qui en tout cas cherche à vraiment trouver des solutions systémiques pour faire face aux crises actuelles. Et ça passe notamment en fait par le fait de repenser le monde qu'on a envie de voir advenir, le fait de repenser les imaginaires. Et ça peut être dans le monde de l'édition, ça peut être également dans le monde de l'ingénierie. Il y a aussi des alternatives low-tech qui se développent, ou alors... simplement le fait de revenir à des manières de faire qu'on utilisait avant, que ce soit en agriculture, que ce soit pour la production de nourriture, pour de la restauration, pour plein de choses, où on tente vraiment d'opérer un changement de paradigme. Donc ces solutions, effectivement, elles sont là, même si malheureusement elles sont moins représentées sur la sphère médiatique.
Et j'imagine aussi que pour qu'il n'y ait pas de technosolution, il faut passer par un réel travail de compréhension du problème avant et de toutes ces composantes. Ouais,
exactement.
Vous avez parlé de low-tech. Est-ce que du coup les low-tech se positionnent en alternative au technosolutionnisme ? Qu'est-ce que les low-tech ?
Alors les low-tech, dans l'idée, du coup, c'est le fait de effectivement faire appel à de la technique, à une solution technique, mais sans pour autant être dans un outil ultra technologique. Et donc l'idée, c'est de dire, de fait, la technique, elle nous aide au quotidien, elle constitue beaucoup des manières pour l'humain d'interagir avec le monde. Mais c'est pas pour ça qu'elle devrait pas être accessible par tous, c'est pas pour ça qu'elle devrait pas être constructible par tous, c'est pas pour ça que leur manière de fonctionnement devrait pas être open source, être partagée, être réfléchie en commun. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, le but, c'est plus de dépendre de grandes industries, d'objets ultra technologiques qu'on ne peut plus démonter comme les téléphones actuellement, mais de vraiment repenser en fait comment on fait pour que chacun puisse accéder à la technique pour ses usages particuliers dont il a besoin, Et dans l'idée également, en engendrant le moins possible de consommation de matière, d'énergie, etc.
Et je pense qu'avec cette définition, ça s'oppose un peu dans l'idée au technosolutionnisme et aux technosolutions. Après, je ne sais pas si on peut dire que c'est l'inverse exactement. Ce n'est pas impossible, je pense. Mais en tout cas, on ne définit pas le technosolutionnisme et les technosolutions pardon, en opposition directement au low-tech.
Effectivement, on ne dit pas que c'est une opposition claironnante, on va dire. En tout cas, on n'a pas défini, nous, le technosolutionnisme par rapport à ça. Mais ce qu'il est intéressant, du coup, de noter avec les low-tech, c'est que dans l'idée, c'est toujours des techniques qu'on va chercher à intégrer également dans leur contexte social, politique, de besoins en matériaux, etc. Enfin, le but, c'est vraiment de pouvoir organiser autour tout un contexte humain et matériel pour utiliser ces techniques, pour se réapproprier ces techniques et faire devenir idéalement un avenir plus durable.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les ressources citées ainsi que des ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes de Contrôle Technique sur toutes les plateformes de streaming et sur le site en description. À bientôt pour un prochain Contrôle Technique.